Pendant que nous autres, on mange de la dinde et de la tourtière, il y a des gens qui accomplissent des exploits physiques hors du commun. C'est le cas de l'Américain Colin O'Brady, un ancien triathlète professionnel de 33 ans. Il est devenu mercredi hier, donc le premier à traverser l'Antarctique en solo et sans assistance. On va en discuter avec quelqu'un qui a lui aussi réalisé un exploit dans cette région-là. Il y a 2 ans, c'est l'aventurier Sébastien Lapierre. Salut Sébastien.
Salut Jeff.
Je l'ai vu sur Facebook que tu avais commenté un peu cet exploit-là.
Ben oui.
Suis-tu ça depuis le départ?
Oui, pas mal, là, presque. Que quotidiennement, je voyais la progression des gars, les conditions qu'il y avait là-bas qui ressemblaient un peu à ce que j'avais. Je revivais un peu mon expédition dans la première partie.
Tu le dis, tu suivais les gars parce qu'il était deux à partir en même temps. Colin O'Brady est celui qui est arrivé le premier, mais il y en avait un autre.
Oui, exactement. Il y avait Lou Rudd, un militaire britannique, qui était là en même temps que moi. Probablement une expédition préparatoire avec une équipe qui faisait le trajet sensiblement qu'il allait faire cette année. On revivait un peu l'histoire qui s'était présentée dans la conquête du Pôle Sud avec Amundsen puis Scott. Deux gars qui sont partis le même jour dans ce cas-ci.
Celle-là, l'original, ça remonte.
L'original, c'est 1911-1912. Okay. Donc, le premier Amundsen qui est arrivé au Pôle Sud en décembre 1911. Et Scott, qui est un petit peu débiné, est arrivé en janvier 1912, réalisant qu'il était second dans la conquête du pôle. Donc les deux hommes sont partis, là, Rudd et O'Brady, en novembre sur la côte de l'Antarctique. Ils passaient par le pôle sud, puis ils continuaient vers la côte là, pour effectuer la traversée.
Juste pour m'expliquer la différence entre le périple de ces deux-là puis le tien, parce que il y en a un qui est un petit peu plus long, celui qui a été complété hier, là, c'était 1482 kilomètres. Toi, tu étais environ 1200, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est que, bon, c'est une première. Hein. Ça fait que naturellement, quand on veut réussir son défi, on va choisir un peu les deux points les plus proches pour faire la traversée. Ce qui fait en sorte que leur point de départ n'était pas exactement le même que moi. Pour rejoindre le pôle sud, j'avais choisi là, la distance qui est vraiment officielle, hors de tout doute, qui est homologuée comme une distance pour atteindre le pôle sud que d'autres ont fait. Donc, si je voulais me conformer un peu au règlement polaire, fallait que je fasse cette distance-là. Eux, bon, ils se donnent une chance naturellement. Ils sont partis un petit peu plus haut, un petit peu plus au sud. Mm-hmm. Donc, une distance à peu près qui est reliée vers le pôle sud de, disons, 900 kilomètres. Puis après ça, rendu au pôle sud, il y avait un autre là 500-600 kilomètres à faire pour rejoindre la côte vers leur point d'arrivée.
Et là, leur première, c'était de traverser carrément le continent.
Exactement.
D'un bord à l'autre, puis ils ont pris le chemin le plus court, entre guillemets?
Ben, en fait, oui, le plus court et le plus logistiquement parlant possible, là, parce qu'il faut qu'ils se fassent récupérer aussi. Et il y a des endroits en Antarctique qu'on peut pas passer parce qu'il y a trop de crevasses, des montagnes et tout. Donc, c'est le chemin là qui était réalisable en quelque sorte. Puis naturellement, ben il passait par le pôle sud pour effectuer une vraie traversée là, qui c'est un peu encore là des technicalités qui fait en sorte qu'on doit passer par le pôle sud pour que ça soit une traversée. Mais il y a d'autres gars qui l'ont fait là, soit avec des kites, soit avec assistance. Mais là, c'est vraiment d'être seul. La seule force de tes jambes, de tes bras qui te permet d'avancer. Donc la grosse contrainte, c'est vraiment de transporter la nourriture que ça te prend. Donc, à quelque part, il y a aussi le facteur poids qui rentre en ligne de compte. Là. On peut pas se permettre de traîner 75 jours de nourriture. Là. Mm-hmm. Donc, faut choisir une distance qui va faire en sorte qu'on est capable d'avoir la nourriture pour le faire.
C'est ça. Comme toi, par exemple, tu étais parti pendant 42 jours. Tu avais planifié combien de temps exactement? Tu avais du lousse, entre guillemets, pour combien de jours encore?
J'avais quand même pas pire de lousse. J'avais 50 jours d'autonomie. Puis encore là, c'était 50 jours pleins. Donc, j'aurais pu me rationner puis faire 54, 55 jours, ce que je voulais absolument pas faire. Mais je me disais, je voulais le faire en 45 jours. Je me disais que j'allais être super content en le faisant en 45 jours. Donc, je me gardais là, un 10% de marge de manœuvre avec 50 jours d'autonomie. Mm-hmm. Puis, je l'ai fait en 42 et 5 heures.
Puis à ce moment-là, pour te préparer, je veux dire, t'as des GPS, tu sais à peu près où tu vas passer, t'as un rythme planifié de X nombre de kilomètres par jour. Comment est-ce que tu planifies pour que ça se passe bien une fois rendu là-bas?
En fait, là, c'est vraiment un gros plan de match que tu fais, puis il faut que tu tiennes ce plan de match-là, parce que sur le terrain, là, c'est facile de sortir du plan de match. Donc, c'est de te connaître toi, de savoir c'est quoi ta zone de confort, à quelle vitesse tu peux aller ou à quel effort tu peux donner pour être confortable, pour pas qu'il arrive de petits problèmes. Parce que c'est ça qui fait en sorte que ça devient difficile. Quand tu as une blessure, quand tu as des engelures, parce qu'il n'y a rien qui guérit là-bas pendant une expédition. Là. Ça va juste empirer.
Ça, il n'y a pas de gens coutus, là.
Exact. Fait que si tu te blesses au départ, tu vas la traîner tout le long. Puis ça, c'est dur sur le moral parce que c'est de l'énergie qui part là-dedans. Ça fait qu'il faut vraiment que tu te connaisses, de rester dans ta bulle de confort, d'adopter une vitesse de croisière, de faire ton acclimatation au départ, de ne pas partir en fou. C'est là que tu as le plus d'énergie, c'est là que tu es content de partir, mais il faut que tu te freines un peu. Puis une fois que tu es dans ta vitesse de croisière, ben tu tiens ça, puis tu y vas naturellement avec les conditions que tu as, les tempêtes et tout et tout. En tenant compte du fait que quand ça va bien, ben tu peux en mettre un petit peu de côté, parce que justement, il peut arriver des tempêtes qui t'arrête sur place. Mm-hmm. Puis ça, ben, c'est une journée qu'il faut que tu manges pareil puis que tu n'avances pas. Donc,
ton objectif, toi, c'était quoi? 28, 29, 30 km par jour?
En fait, l'objectif pour rentrer dans mes 50, là, c'était environ 25 km par jour. Puis ça finit, là, ça a tourné autour de 28 en moyenne.
Puis quand tu parles de plan de match comme ça, une fois que tu as fait tes 25 une journée donnée, tu te dis, OK, j'ai encore du jus. Est-ce qu'il fallait justement que tu dises, là, Sébastien, calme-toi, tu pourrais encore en faire 5-6, mais garde de l'énergie pour les jours à venir?
Ben, en fait, c'est ça. La partie difficile, c'est justement quand je dis qu'il faut que tu te connaisses, c'est de savoir, es-tu capable de le donner ou là, t'es vidé, t'es mieux d'arrêter. Fait que si t'es capable de le donner, ben c'est là que tu peux en mettre en banque, puis ben t'enlever de la pression un peu sur l'échéancier qui est quand même assez serré. Mm-hmm. Donc il y a des journées, oui, en effet, il faisait beau, il y avait presque pas de vent, parce que quand tu montes le glacier, t'as le vent d'en face tout le long. Fait que quand il y a pas de vent, ça va beaucoup mieux.
Ouais.
Fait que ces journées-là, ben si ça allait bien, j'en donnais un peu plus. Puis juste au contraire, vers la fin, je savais que je rentrais en masse dans mon temps. Ma vitesse était meilleure, ça fait que je faisais des journées de 34 km, puis j'arrêtais après 8 heures au lieu de skier 10 heures, puis okay. Je me disais, regarde, là, ça va bien, t'es en forme, garde ça comme ça, tu vas arriver en masse dans les temps. Mm-hmm. Profite.
Quand on regarde Colin O'Brady pour son exploit actuel, il a clenché la fin. Je pense qu'il a fait quelque chose comme 30 heures consécutives ou 34 heures. Là, il n'a pas dormi pendant toute cette période-là pour rallier son point d'arrivée. C'est pas un peu risqué, selon toi? Il n'aurait pas pu flancher à la dernière minute?
Ben oui et non. Faut se mettre un peu dans l'esprit du gars que ça fait une cinquantaine de jours qu'il est tout seul, qu'il est dans l'Antarctique, qu'il fait des conditions assez extrêmes. Il voit, tu sais, son point d'arrivée, parce que là, la dernière partie, on est en descendant dans leur cas. Donc, il devait voir quand même assez bien où ce qui s'en allait. Quand tu vois ton point d'arrivée, là, c'est assez dur de mettre les breaks.
Ouais.
Ça fait que je comprends très bien sa poussée finale. Écoute, il allait être le premier au monde à réaliser ça. Encore là, même, il aurait pu le faire en deux jours. S'il se blesse, ben, il va ralentir un peu, ça va y en prendre trois. Ça fait que je pense que non, c'était probablement qu'il y avait un peu la mentalité, regarde, je suis un petit kid là, qui réalise un rêve, ça fait qu'en vrai, il donne tout.
Ah oui. Là, tu dis 53 jours, dans ton cas, c'était 42, sans contact avec le monde extérieur. T'as quoi comme équipement s'il arrive quelque chose?
Ben, on est en 2018, bientôt 2019, donc c'est assez incroyable ce qu'on peut faire maintenant avec la technologie. Il y a les téléphones satellites. Il y a aucun obstacle en Antarctique, donc le réseau satellite est assez bon. Il y a des petites balises de détresse qui ont toutes sortes de petits gadgets pour communiquer. Je pouvais texter, je pouvais poster sur Facebook, moi, en étant là-bas, en plein milieu de l'Antarctique, même que j'étais plus assidu sur les réseaux sociaux là-bas
qu'aujourd'hui. <ici. rire>
Donc, le contact est là, tu sais, on est tout seul, mais on peut parler, on peut jaser avec du monde, ce qui n'était pas le cas dans les années 1900. Donc, pour ça, là, ça met un petit baume sur la solitude.
Mm-hmm. Je voyais l'article de la BBC sur Colin O'Brady, puis il a dit, à la toute fin de son périple, il a dit « I'm tired, man, I'm exhausted. »
J'en
doute pas. « Je suis fatigué, je suis épuisé. » Toi, quand t'es arrivé là au pôle, comment t'étais?
Ben, j'étais plutôt bien. Honnêtement, là, j'avais vraiment eu une bonne préparation physique, une bonne préparation mentale, puis j'étais resté, comme je dis, dans ma zone de confort. Moi, j'allais pas là pour faire une course, j'allais pas là pour battre un record. Ces gars-là, tu sais, veux pas, ils avaient la petite compétition, ça fait qu'ils devaient pousser un peu plus que la zone de confort pour essayer d'être premier. Donc, moi, je suis arrivé au Pôle Sud, j'aurais pu continuer encore, là. Les médecins m'ont quand même dit que il était surpris de mon état. J'avais même pas les lèvres gercées.
J'avais ça ferait une bonne pub quand même.
Ouais, hein, ouais.
De celui longuant que t'avais ou whatever.
Ouais, ça fait que j'avais vraiment pris soin de moi, puis je voulais ça. T'sais, j'étais parti avec l'idée que mon mental n'aurait pas à s'occuper de mon body. Je voulais pas de blessure, je voulais pas m'occuper de ça, perdre d'énergie, puis c'est ça qui est arrivé. Puis en plus, ça a comme tourné un petit peu dans un genre de petit jeu entre moi puis les médecins, parce qu'à chaque semaine, quand on est là-bas, on parle à un médecin au téléphone qui s'assure que tout va bien. Puis okay. Lui, sa job, c'est de voir si tu comptes des menteries pour pas te faire sortir ou si ça va vraiment bien. Puis il me croyait pas vraiment dans les questions qui revenaient sous différentes formes. Je sentais qu'il me croyait pas vraiment que tout allait bien. Ça fait que la première chose que j'ai faite en arrivant, je suis allé les voir, puis je leur ai montré, regardez, ça va vraiment bien.
Dans ce cas-là, le médecin, est-ce que c'est un médecin qui est à proximité de l'Antarctique, sur une base?
Il est directement sur place au camp de base qui s'appelle Union Glacier. Donc, quand on arrive en Antarctique, il y a un petit camp de base. C'est une compagnie qui gère un peu toutes les expéditions puis le tourisme qui se passe là-bas. Puis, ils ont des médecins sur place, des météorologues. Ils ont vraiment une grosse équipe, là, communication et tout. Ça fait qu'eux autres sont là. Si jamais il y a un problème, qu'il faut qu'ils aillent chercher quelqu'un, ils ont des avions, le médecin embarque, puis tout est là.
Des exploits comme les vôtres, c'est d'abord physique ou mental?
Ah, c'est d'abord mental. Oui. Oui, oui, oh, oui. Tout se passe dans la tête. Puis ça, ça a tout le temps... Quand on était jeune, là, jamais on entendait parler de préparation mentale. T'sais, jamais. Ça a été réservé à l'élite olympique puis les grands athlètes pendant longtemps. Puis pourtant, c'est tout ça qui gère le body, t'sais, le mental, c'est tout ça qui contrôle. Puis on relayait ça au second plan. Puis dans des exploits sportifs, peu importe, même dans les projets de tous les jours, on passe souvent à côté de ça. T'sais. On se prépare logistiquement, on se prépare physiquement, mais le mental, on l'oublie souvent. Puis tout se joue là.
Puis qu'est-ce qui te poussait à continuer quand tu étais là-bas?
Ah, ben ça, c'est la fameuse motivation qui doit embarquer. Puis la motivation, elle vient quand ce que tu fais a un sens. Puis si, avant de partir, tu t'es pas posé les questions pourquoi je le fais, c'est quoi vraiment la raison qui me pousse à le faire, ben sur place, là, la motivation, elle sera pas là parce que, tu sais, les raisons comme... Puis encore là, je suis sûr qu'eux autres, c'était pas seulement battre le record, être le premier. Ils devaient avoir d'autres raisons que ça, parce que les records, l'argent, la gloire, puis tout ça, et que ça tient pas. Quand t'es face au mur en Antarctique, là, qui fait moins 50, puis que tu veux tout lâcher, ces raisons-là, c'est pas concret. Ça fait que ça te fait pas avancer.
Ça, c'est pas l'article de la BBC qui va te continuer.
Exactement.
Qui va faire en sorte que tu vas poursuivre ton périple comme ça. L'autre gars dont tu parlais en début d'entrevue, celui qui est parti avec O'Brady, Lewis Rudd, il a 49 ans.
Oui.
Ouais. Ça t'a-tu surpris de voir qu'un homme de 49 ans allait s'embarquer dans une histoire comme celle-là?
Ben pas tant. Pas tant parce que justement, étant donné que c'est très mental comme défi, ça prend un certain vécu pour réussir des exploits comme ça. Puis là, je pense que ça peut, à quelque part, être un avantage dans certains cas. C'est sûr que, naturellement, là, il y a des limites. Mais non, ça m'a pas surpris. C'est quand même un gars, un militaire des forces spéciales britanniques. Il a fait pas mal d'affaires. Il est en bonne forme physique. Mm-hmm. Ça fait que non, ça me surprenait pas.
Parce que toi, tu l'as fait il y a 2 ans. L'aurais-tu fait il y a 15 ans, tu penses?
Ben, je pense pas, justement, un peu à cause de ça. Puis... je voulais attendre d'être prêt pour le faire. L'Antarctique, c'était comme mon petit bonbon. Ça me tentait pas d'aller là-bas puis de souffrir tout le long. Ça fait que j'ai fait d'autres expéditions avant. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, j'ai le bagage qu'il faut. Là, je me sens prêt. Ça fait que là, je vais y aller. Puis c'était, ben regarde, pas le 2 ans, j'avais quand même 38 ans. Ça fait que c'est pas jeune pour dans le monde du sport, disons. Ouais. Là, je suis pas vieux, là.
Jamais, voyons.
Mais je suis pas jeune.
C'est ça. Pendant 42 jours, toi, tu as été tout seul. Eux, pendant 53 et même plus dans le cas de l'autre. Ouais. Le défi qui les attend en revenant. Tu sais, t'es tout seul pendant 43 jours dans une immensité glacée. T'es seul avec toi-même, avec ta tête. Quand tu reviens dans ton quotidien, comment ça se passe?
C'est pas facile. C'est pas facile. La solitude, oui, il faut que tu apprennes à dealer avec les horaires des autres, les interactions et tout. Ça, c'est quelque chose. L'autre chose aussi, c'est que tu es habitué à une grosse dose d'adrénaline à tous les jours. Tu sais, il n'y a rien de facile. Tu travailles fort pour tout. Puis ça, c'est un peu une drogue. Hein? Toute la petite combinaison chimique qui se passe dans toi et puis là, ça fait que tu veux aller rechercher ça. Puis c'est pas facile, puis des fois, la petite routine, t'as de la misère à l'endurer, puis je veux pas utiliser le mot dépression, là, mais c'est un gros down là, quand on revient. Mm-hmm. Ça fait que là, comment tu gères ça, c'est ce qui va faire si le down va être long ou moins long. L'autre chose, ben, c'est qu'il y a certaines petits détails de la vie moderne un peu facile qui va leur taper un peu sur les nerfs. Là.
Comme?
Toutes les chialeux là, qui s'inventent des problèmes pour n'importe quoi, qui ont jamais assez de choses, que ça leur prend tout. Ça devient un petit peu tannant. Juste personnellement, moi, j'avais l'impression en Antarctique que si je prenais une décision, fallait vraiment que mon raisonnement soit poussé tout le temps au maximum. Tu sais, quand t'es 2-3, tu sors une solution, l'autre, ah ouais, c'est bon ça. OK, c'est bon, ouais. On y va avec ça. Quand t'es tout seul, tu vas être sûr de prendre la bonne décision. Ça fait que la moindre petite décision est poussée à l'extrême. Fait que quand je revenais ici, des fois, là je pensais à mon affaire, puis ben là, écoute, là, c'est pas grave, là. Si c'est pas la bonne affaire, là, tu feras d'autres choses, là. T'es pas mal pris ici, là.
Ça, c'est pas une situation de vie ou de mort.
Exact.
Alors que là-bas, les conséquences peuvent être pas mal plus grandes.
Ça fait que c'est des réflexes comme ça qu'il faut perdre un peu, là.
Puis pour les proches, t'as beau l'expliquer super bien ce que t'as vécu, je peux pas savoir comment je me sentirais après 42 jours en solitaire comme ça. Pour les gens près de toi, ta famille, comment eux ont vécu ça par rapport à toi?
Hey, ben là, faudrait demander à ma blonde. Ben, écoute, moi, ce que je voulais, en revenant ici, naturellement, moi, ma blonde, ma famille, je les avais un peu abandonnés pendant ces 42 jours-là. Ça fait que je voulais reprendre ma place. Puis ma blonde aussi, ben écoute, elle avait eu les deux jeunes enfants sur les bras tout ce temps-là. Ça fait que naturellement, elle était contente que je revienne aussi. Donc, ça a été d'un peu de faire la balance entre tout ça, reprendre ma place, mais pas trop vite parce que j'étais pas tout à fait prêt.
Un amortissement.
Puis en même temps, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai recommencé à travailler pas trop longtemps en venant. On avait eu à cette époque-là quelques bons calls.
C'est ça, comme pompier, Sébastien, ouais, t'as de l'action aussi dans ta vie.
Là, ça m'a permis d'aller rechercher un peu cette dose d'adrénaline-là au travail puis de revenir à la maison un peu, sur ma dose de... Ça fait que ça m'a aidé beaucoup. Puis, ben naturellement, là, la famille comprenait aussi le retour, qu'il fallait que ça se fasse progressivement. On en avait parlé avant le départ. Ça fait que c'est une préparation, ça aussi, hein, le retour d'expédition.
On parle de l'exploit physique et mental là-bas. Mais revenir, c'est une étape dont on parle moins dans les médias.
Presque
on
pas.
Vous applaudit quand vous revenez. On veut que vous nous racontiez ce qui s'est passé là-bas. Mais les semaines puis les mois qui suivent, on en entend moins parler.
Ouais. Puis... c'est pour ça aussi que souvent, ben quelqu'un qui fait ça va en refaire d'autres parce que c'est un manque un peu qui s'installe. Moi, j'ai aussi les conférences qui me permettent de continuer à surfer un peu là-dessus, donc je reste un peu avec le souvenir de ce que j'ai vécu en le racontant. J'adore parler de ça, là, je trippe à chaque fois. Puis la plupart le font aussi. Probablement pour ça, on est tous pareils, là. On a vécu quelque chose, puis ça nous prend cette petite. Mm-hmm. Ta petite dose, là.
Ta prochaine, c'est quoi?
La prochaine.
J'ai entendu parler du pôle Nord, moi.
Ben, en fait, le pôle Nord, je l'ai dans la tête parce que, naturellement, ayant fait le pôle Sud, le pôle Nord m'intéresse. Donc, oui, probablement que le pôle Nord, ça sera probablement pas la prochaine parce qu'il y a beaucoup de préparation. C'est très technique, le pôle Nord. C'est l'océan qui est gelé. On n'est pas sur un continent. Il y a de l'eau, la glace bouge et tout. Il y a des ours. Mais non, il va y en avoir d'autres, là. Prochainement, on parle, là, peut-être avec une gang de chums là, qui m'ont approché pour aller faire du kayak là, dans le nord du Québec. Fait qu'on regarde ça, là, tranquillement.
OK, ben c'est au courant, Sébastien.
Ben certain.
Ça va nous faire plaisir que tu nous racontes ça en temps et lieu. Merci d'être passé aujourd'hui pour nous partager ton expérience puis commenter un peu cet exploit-là.
Ça fait plaisir.
J'en parlais dans le bureau avec Luc, le recherchiste, puis je me dis, c'est cinglé qu'on ait accès à des gars comme vous qui l'avez fait, puis vous êtes un peu fou aussi en même temps. Mais c'est une belle folie, c'est une folie qui est saine.
Voilà.
Puis vous pouvez le partager avec nous quand vous revenez. Prends soin de toi, Sébastien. Salut la famille de notre part. Sébastien Lapierre, aventurier, il nous parlait de l'exploit de Colin O'Brady. C'est un ancien triathlète professionnel de 33 ans qui est devenu hier le premier à traverser l'Antarctique en solo et sans assistance, un peu comme ce qu'il avait fait en rejoignant le pôle Sud en janvier 2017 en solitaire, il y a maintenant donc 2 ans.
Le retour d'Éric Duhem, FM 93. Ça me parle. On revient dans quelques minutes. Pour communiquer avec